Bon. Jean-Bernard Leroy, nous allons continuer notre examen de l'Apocalypse. Cette fois-ci, nous allons parler de l'église de Pergame. Voici ce que l'apôtre dit à Pergame. D'autre encore pour l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient le glaive acéré à deux tranchants. Je sais où tu habites. Là se trouve le trône de Satan. Malgré cela, tu es attaché à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous où habite Satan. Mais j'ai contre toi un léger grief. Tu as là des sectateurs de la doctrine de Balaam qui a pris ta balague à faire trébucher les fils d'Israël pour les amener à se débaucher. Ainsi, tu as toi aussi des partisans de la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sans quoi je vais venir à toi, bien vite, batailler avec eux par l'épée de ma bouche. À bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, et je lui remettrai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que nul ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Pergame était le centre du culte impérial dans la province d'Asie. Un autel à Zeus dominait la plaine. N'oublions pas que l'Apocalypse fut vraisemblablement écrite au début de la persécution de Domitien, qui voulait remettre de l'ordre dans l'Église, et dans ce but, instaurer l'établissement officiel du culte impérial et persécuter ceux qui s'y refusaient. C'est aussi Pergame qui est à l'origine du parchemin, support de choix des écrits dans toute l'Antiquité, jusqu'à Gutenberg, et même après, familièrement, on appelle un diplôme une peau d'âne. Le messager tient le glaive acéré à deux tranchants. On pense tout de suite à l'introduction du livre. Le messager d'Éphèse tenait sept étoiles et sa bouche dardait un glaive acéré à deux tranchants. Les instructions à Pergame vont donc concerner la parole, les écrits, en fait, l'enseignement de l'Église. Le message commence par un rappel de circonstances difficiles. Je sais où tu habites. Là se trouve le trône de Satan. C'est suivi d'un compliment. Mais tu n'as pas renié ta foi. L'Église de Pergame cherche donc à garder l'enseignement, la vérité. Mais il a aussi un léger grief. Tu as là des sectateurs de la doctrine de Balaam qui a pris ta Balak, de nom symbolique, à faire trébucher les fils d'Israël. Ainsi, tu as toi aussi des partisans de la doctrine des Nicolaïtes. En résumé, tu ne peux empêcher certains de tes membres de divaguer loin de la doctrine et d'entraîner de braves gens dans des hérésies plus ou moins dévastatrices. Dépêche-toi de réagir. Sinon, je vais venir à toi bien vite batailler avec eux par l'épée de ma bouche. Dieu a donné à l'homme une intelligence pour comprendre et même saisir la vérité, et ce, dans tous les domaines, y compris dans l'approche des vérités de la foi. Ce que certains appellent la foi du charbonnier n'est guère bon que pour les charbonniers, ceux qui ne cherchent pas plus loin que ce que dit monsieur le curé. Encore faut-il que monsieur le curé ou ceux qui en tiennent place gardent l'intégrité du message évangélique. Lorsque Henri VIII d'Angleterre décida de rompre avec Rome, une majorité du clergé l'a suivi, donnant naissance à l'anglicanisme. Les autres furent écartés, parfois au prix de leur vie, comme saint Thomas mort. Rester au niveau élémentaire dans le domaine de la foi est plein de risques. On est à la merci du moindre sophiste. Il est donc normal d'approfondir sa foi, mais en respectant le fait qu'il s'agit d'une révélation et non d'une construction rationnelle. Saint Thomas d'Aquin a fait l'éloge de la philosophie comme servante de la théologie, et son attitude a montré que pour lui, la théologie était au service du magistère. Le magistère a autorité pour dire ce que nous devons croire. La théologie est là pour l'expliquer et la philosophie pour la justifier sur le plan naturel, et non l'inverse. Il ne faut pas donner prise à ceux qui veulent faire trébucher les fils d'Israël, c'est-à-dire les chrétiens. Le don du Saint-Esprit correspondant est celui de la science, une lumière surnaturelle de l'Esprit-Saint qui nous montre combien les vérités de la foi sont dignes de créance et acceptables, même par des motifs empruntés à l'ordre créé. La récompense pourrait paraître énigmatique. Je lui remettrai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que nul ne connaît, sauf celui qui le reçoit. C'est une relation personnelle, d'amour particulier entre celui qui a cherché Dieu avec son intelligence, la partie la plus noble de l'homme qu'il a en commun avec les anges. Aussi, Dieu lui donnera un nom particulier, connu de l'élu et de lui seul, analogue au petit nom que se donnent les amoureux, signe d'une élection particulière et unique. Qui ne rêverait d'être appelé par Dieu avec un nom qui lui est propre? Quant à la béatitude, elle semble bien être celle des pauvres en esprit, de ceux qui, riches quant au don de l'intelligence, sont prêts à accepter une révélation qui leur est donnée. Humilité profonde qui a tendance à se faire rare. Le péché capital à vaincre est l'orgueil. L'orgueil, racine de tous les autres péchés. L'orgueil qui fait passer ses idées avant celles du magistère, donc de Dieu. L'opposition actuelle est multiple et déchaînée. C'est d'abord celle des athées, des positivistes, dont Auguste Comte est le chef de file. Ils veulent éliminer Dieu de toutes leurs préoccupations. La place, aurait dit à Napoléon qu'il disait « mais Dieu dans tout ça » quand il lui montrait ses calculs cosmogoniques. Il a dit « je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse, comble d'orgueil ». De fait, ils sont bien forcés de remplacer Dieu par autre chose. Comme rien ne peut jaillir de rien, il leur faut bien admettre l'éternité de la matière. Et comme la dite matière prend des formes variées à l'extrême, ils ont choisi comme moteur de ces modifications le hasard. Le Dieu d'amour est donc devenu une matière qui s'organise au hasard. Sur Internet circulent des paysages magnifiques, des animaux somptueux. Je pense aux oiseaux, aux papillons, aux poissons de roche. Les couleurs et les formes sont extraordinaires. Dire que cela est dû au hasard relève d'une naïveté surprenante. Un athée me répondra qu'il n'y a pas d'autre solution. Ce qui revient à tourner en rond, puisqu'il prend l'amour de Dieu comme l'absence de Dieu comme un principe, donc il faut admettre que c'est le hasard qui organise tout. Moi, je prendrais plutôt que Dieu organise tout, donc que le hasard n'est là-dedans pas grand-chose. Il faut admettre aussi des puits d'entropie. Je m'explique. On sait depuis toujours que la matière s'use et que l'énergie se dégrade en chaleur. Il n'y aurait nul mouvement sans frottement. On le voit bien partant de verglas. Si la matière s'use, il faut admettre qu'elle se renouvelle quelque part. Certains parlent des trous noirs, parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Admettons un instant que la matière se rassemble avant d'exploser à nouveau, et ceci éternellement. C'est ce que pensaient les Sumériens qui croyaient à l'éternel retour, tous les 25 000 ans, je crois. Lamentable vue d'avenir. Tous les 25 000 ans, je vivrai la même vie, connaîtrai les mêmes épreuves et ferai les mêmes bêtises. J'espère tout de même qu'il y aura le même vin. Notons en passant que la dite matière obéit à des lois multiples et parfaitement cohérentes. Einstein aurait dit le plus incompréhensible est que tout cela est compréhensible, et que nul de ces savants authentiques mais piètres philosophes ne s'est posé la question de l'origine de ces lois. Ceci pour les athées. Mais le danger le plus grand vient peut-être de ces innombrables cuistres qui ne font que dénaturer l'enseignement de l'Église sous prétexte d'herméneutique. Ils prétendent reléguer les pères de l'Église, saint Thomas d'Aquin et tous les théologiens, au rang de benêts attardés. Cette manie a pris un nouveau tour après le siècle dit des Lumières, que l'on ferait mieux d'appeler le siècle des brouillards et même des ténèbres, et la Réforme. Sous prétexte de rechercher la vérité au-delà des récits d'un Moyen-Âge considéré comme crédule et stupide, ils ont fait marcher leur imagination, rejetant ce qui ne leur plaisait pas, ce qui leur semblait trop miraculeux. Depuis peu, ils travaillent sur ordinateur, ce qui n'arrange rien. Un de ces brillants exégètes a déclaré qu'il n'y avait pas plus de 3 ou 4 paroles du Christ qui soient authentiques. C'est lui qui les a découvertes. Saint Paul nous avait prévenu. Un temps viendra, c'est la deuxième épître à Timothée, chapitre 4. Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine du salut, ayant aux oreilles la démangeaison d'entendre du neuf. Ils se choisiront au gré de leur passion une foule de maîtres. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se jetteront sur les fables. Les exemples abondent. N'ai-je pas dernièrement entendu au cours d'une homélie que les mages n'étaient que de braves marchands ambulants qui se sont contentés d'offrir à l'enfant ce qui traînait au fond de leur poche? Un autre disait en parlant du Cantique des Cantiques qu'il s'agissait d'une poésie érotique tombée là par hasard. Ce sont des choses que j'ai entendues dans une messe. Renan L'athée, ne disait-il pas qu'il était prêt à accepter le texte du credo, sauf les mots sous Ponce Pilate, pardi. Ce sont là des mots qui placent toute la vie du Christ, y compris la résurrection, dans une période bien déterminée de l'histoire. Alors on déclare ces mots ajoutés quelques décennies plus tard, oui, on décrit les évangiles comme ne relatant que des mythes. Mais non, monsieur Renan, Ponce Pilate a bien existé. Une vingtaine d'années après la croix, l'historien Suétone, parfaitement non chrétien, parle d'un procès entre deux factions juives au sujet d'un certain Jésus dont certains disent qu'il est mort et l'autre encore vivant. Sous le texte d'authenticité, on remonte au texte hébreu, dont la science est certainement facilitée par le fait qu'en hébreu, l'hébreu ne s'écrit qu'avec les consonnes. Par exemple, JHVH, ainsi puis donné Jéhovah, puis Yahvé. L'écriture est la même. En français, Tartinobri et Tartinober s'écrivent exactement de la même manière. Donc, on glisse aisément d'un mot à l'autre, ce qui permet des divagations extraordinaires. Au cours d'une réunion, j'ai entendu un rabbin commenter Isaïe. Il était d'une virtuosité extraordinaire. Il dit glisser d'un mot sur l'autre avec une rapidité déconcertante. À la fin, on était dans l'admiration devant la science du rabbin, mais on se demandait un peu ce qu'Isaïe avait bien pu dire. Cette flexibilité du texte hébreu fut utilisée au Xe siècle par les Massorètes, qui reprirent tous les textes de la Bible pour une nouvelle édition. Certains n'ont pas manqué de remarquer que les textes qui annonçaient le Christ après avaient été quelque peu corrigés. On l'a observé depuis la découverte des écrits de Qumran. C'est ainsi que le terme dans Isaïe chapitre 7, « Voici qu'une vierge concevra », qui a été conservé dans son état, dans la traduction actuelle, je cite hostie de l'évangile de saint Matthieu, « Voici que la vierge concevra et enfantera un fils », c'est dans la Bible aussi de saint Matthieu, est devenu « Voilà, la jeune femme est enceinte », phénomène qui ne devait pas être rare au temps d'Isaïe, puisque la pilule n'existait pas. Tous ces espèces de cuistres ont découvert les frères consanguins à Jésus, trois Marie-Madeleine, quatre ou cinq Saint-Jean. Finalement, pour eux, le Christ n'était qu'un obscur anarchiste doucettement chrétien, et le christianisme est l'œuvre de saint Paul, qui s'est appuyé sur des livres qui ont d'ailleurs été écrits 100 ou 200 ans après la mort du dit saint Paul. Nous n'avons que faire de ces calandres d'Aisne, mais elles peuvent faire des dégâts chez des personnes mal informées ou trop friandes de nouveautés. Saint Paul nous avait prévenus. Contre ces marchands d'Orvietan, l'Église de Pergame nous invite à penser notre foi, à l'approfondir, mais toujours dans la fidélité et la confiance dans le magistère à qui Dieu a confié la garde. Nous ne remercierons jamais assez la Providence de nous avoir donné, depuis Vatican I, c'est officiel, un pape qui ne peut pas se tromper lorsqu'il déclare une vérité de foi. Je ne dis pas qu'il ne peut pas se tromper, notamment dans le domaine prudentiel, c'est une autre question. Mais lorsqu'il déclare telle proposition comme vérité de foi, par exemple l'Assomption, le pape est infaillible. Ce n'est pas toujours facile, car le dit magistère est composé d'hommes sujets à la vanité, quand ce n'est pas à l'orgueil. Mais pour servante qu'elle soit de la théologie, science et philosophie ont leur autonomie dans des domaines qui leur sont propres, tout comme le pouvoir temporel vis-à-vis du pouvoir spirituel. L'affaire Galilée est un bon exemple des désordres auxquels peuvent conduire la confusion des genres. La théologie n'a aucune autorité sur la manière dont peuvent être analysés les mouvements relatifs des astres. En revanche, la science se dévalorise en affirmant que si une interprétation littérale de la Bible peut conduire à des absurdités, c'est que la Bible elle-même est absurde. C'est au magistère d'expliquer comment il faut la lire, quel est le message réellement transmis. Seulement la vanité est là et certains théologiens rêvent de tyranniser science et philosophie, provoquant de la partie adverse des railleries, d'autant plus justifiées que les dits théologiens sont en général parfaitement ignorants en la matière. Le don de science est bien nécessaire, et aussi la vertu de prudence. Les saints qui se sont illustrés dans ce domaine sont les théologiens, pères et docteurs de l'Église, en particulier saint Thomas d'Aquin. Quant aux prières, au-delà du credo et de l'acte de foi, on ne peut négliger les magnifiques hymnes souvent écrites par saint Thomas d'Aquin lui-même, comme le Pange Lingua, la science s'épanouissant dans l'amour, un bien beau programme. Je vous souhaite un beau mois d'août et de bonnes vacances si vous ne les avez pas encore prises.